Bonjour et bienvenue, 15h, TU 17h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Paris, la traditionnelle cérémonie du souvenir se déroule au pied de l'Arc de Triomphe. Et à Moscou, c'est demain que s'élancera la grande parade militaire en présence du président russe et de son homologue chinois. Au lendemain des violents échanges entre les deux pays, le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions dans l'espace aérien de l'Inde, dont 3 rafales français. Explication dans un instant. Toujours pas de fumée blanche au Vatican. Après 3 scrutins sans résultat, les cardinaux réunis en conclave doivent de nouveau voter pour choisir le successeur de François. Toujours des violences entre l'Inde et le Pakistan, même si les tensions ont baissé d'un cran. Après une longue journée de bombardements, les armées des deux pays ont à nouveau échangé des tirs la nuit dernière à leurs frontières. Leur confrontation cette semaine restera comme la plus violente des deux dernières décennies. Les bombardements ont causé la mort d'au moins 43 personnes dans les deux camps, dont de nombreux civils. Hier soir, le premier ministre pakistanais a promis de venger tous les martyrs, laissant présager d'autres opérations. L'armée pakistanaise affirme avoir abattu 5 avions adverses dans l'espace aérien de l'Inde, dont 3 rafales français. New Delhi n'a pas confirmé cet épisode qui pourrait révéler une véritable faiblesse de son armée de l'air. Explication de Franck Alexandre.
L'armée de l'air indienne n'a pas donné le détail des pertes qu'elle a éventuellement subies lors de l'opération Sindoor. En revanche, une vidéo sur les réseaux sociaux révèle les restes présumés d'un réacteur d'avion M88 qui ne peut appartenir qu'à un Rafale. Il est donc probable, indique le spécialiste aéronautique Xavier Tittleman, que l'Indian Air Force ait perdu au moins l'un de ses meilleurs appareils, ce qui révèle aussi que l'armée de l'air indienne a mal ou même pas du tout anticipé une réaction pacifique.
Les Indiens ont réalisé une action contre des sites jugés terroristes. Il y a 9 sites qui ont été bombardés et ils l'ont très clairement dit, on n'a pas attaqué et on s'en est pas pris aux infrastructures militaires pakistanaises. Ça veut dire que s'il y avait par exemple de la défense aérienne pakistanaise, ils ne l'ont pas détruit, alors que normalement c'est un préalable quand on entre dans une situation de guerre et de bombardement. Ça veut dire que la bulle de protection pakistanaise n'ayant pas été entamée parce que les Indiens ne voulaient pas s'en prendre aux militaires pakistanais, et bien évidemment les Pakistanais ont répondu et ont pu intercepter des avions. Et à partir du moment où vous êtes dans une zone dans laquelle vous êtes à portée de missiles, bah logiquement, malgré des très bons systèmes d'autoprotection, vous n'êtes pas infaillible.
Si l'information est confirmée, ce serait la première fois qu'un avion de chasse Rafale est abattu en vol dans une mission de combat.
Franck Alexandre, notre spécialiste défense. Je vous lisais dans les titres au Vatican, toujours pas de nouveau pape. Au deuxième jour du conclave, de la fumée noire s'est échappée en fin de matinée du toit de la chapelle Sixtine, signe que les deux tours de vote organisés ce matin n'ont pas permis aux cardinaux électeurs d'élire le successeur de François. Ces 133 cardinaux s'apprêtent de nouveau à voter. À Ramallah, en Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne condamne une violation des droits de l'enfant. Des écoles tenues par l'ONU, dont 3 à Jérusalem-Est, ont été brutalement fermées par des forces de la police israélienne. Pour cette dernière, ces écoles fonctionnent illégalement en l'absence d'autorisation. En ce qui concerne la bande de Gaza, territoire plongé dans une catastrophe humanitaire, les secours palestiniens font savoir qu'ils sont au bord de la paralysie. L'acheminement de l'aide est empêché par Israël depuis plus de 2 mois. 75% des véhicules de secours sont immobilisés faute de carburant. 8 mai 1945, 8 mai 2025, ce sont les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. À Paris, Emmanuel Macron préside en cette fin d'après-midi la traditionnelle cérémonie au pied de l'Arc de Triomphe, en hommage aux combattants tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 8 mai n'est pas la date choisie dans tous les pays d'Europe pour commémorer la fin de la guerre. Explication Lila Olkinuora.
Le 8 mai 1945, à 23h01, les Allemands signent leur capitulation à Berlin. Autour de la table, les Russes, les Américains, les Britanniques et les Français, c'est la fin de la guerre en Europe. Mais 23h01 à Berlin, c'est 1h01 à Moscou. C'est donc pour ça que les Russes fêtent ce qu'ils appellent le jour de la victoire le 9 mai. Ailleurs en Europe, parce que les territoires n'ont pas tous été libérés au même moment, les dates de célébration varient. Aux Pays-Bas, par exemple, les commémorations s'étendent du 4 au 5 mai, d'abord pour la journée nationale du souvenir, puis le lendemain pour fêter la libération du pays. En Italie, la fête de la libération célèbre à la fois la fin de l'occupation nazie et la résistance contre le régime fasciste de Mussolini. Tout ça le 25 avril en souvenir de l'offensive de la résistance qui a eu lieu en 1945 dans plusieurs villes du Nord. Enfin, en Belgique, pour des raisons budgétaires, le 8 mai n'est plus férié depuis 50 ans. Une question qui soulève encore le débat. Pour la gauche belge, le réinstaurer serait un signal fort contre l'extrême droite.
C'était Lila Olkinoura. En Russie, c'est donc demain, 9 mai, qu'aura lieu sur la place rouge de Moscou la grande parade militaire. Des soldats chinois prendront part au défilé sous les yeux de Vladimir Poutine et de son homologue Xi Jinping. Il y aura aussi les présidents brésiliens et vénézuéliens, entre autres. À Moscou, le dispositif de sécurité est à son niveau maximum. Kiev ayant déclaré ne pas être en mesure de garantir la sécurité des invités du Kremlin. Correspondance de Jean-Didier Revoin.
Alors qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus vendredi sur la place Rouge pour assister au traditionnel défilé militaire du 9 mai, plusieurs attaques de drones ukrainiens ont perturbé le fonctionnement des aéroports de la capitale, comme ce fut encore le cas hier. Dans ces conditions, les autorités russes ne veulent prendre aucun risque. Les personnels chargés d'assurer la sécurité de l'événement ont été triés sur le volet pour s'assurer de leur fiabilité et éviter ainsi qu'ils puissent être corrompus par Kiev. Dans le centre de Moscou, où se déroulent les répétitions de la parade, les réseaux internet mobiles sont régulièrement coupés pour quelques heures afin d'éviter toute utilisation de la géolocalisation et ils le seront vendredi sur toute la durée des célébrations. Depuis plus de 10 jours, tous les hôtels situés sur l'avenue Tverskaya qui donne sur la place Rouge et qui sera emprunté par le matériel militaire ont eu l'obligation de verrouiller leurs fenêtres. Autant d'éléments qui montrent que même si Moscou a proposé une trêve du 8 au 10 mai pour ses célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie, les autorités russes n'ont aucune confiance dans l'attitude qu'adoptera Kiev à cette occasion. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Et à propos encore de la trêve décrétée de façon unilatérale par le maître du Kremlin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères accuse la Russie d'avoir violé à plusieurs reprises son propre cessez-le-feu qu'il qualifie de farce. On observe toutefois une baisse de l'activité militaire et un répit dans les attaques de drones et de missiles entre les deux pays en guerre. Dans l'actualité économique du jour, les comptes de Toyota, le géant japonais de l'automobile, des comptes plombés par les surtaxes douanières américaines. Il évalue leur coût à plus d'un milliard d'euros. Toyota anticipe un effondrement de 35% de son bénéfice cette année. Comme ses concurrents, le numéro 1 mondial souffre de la baisse des ventes de voitures à travers le monde, mais il est aussi particulièrement vulnérable à l'offensive douanière lancée par Washington. Toujours pas de cap politique clair pour la Nouvelle-Calédonie, territoire français de l'océan Pacifique. Les discussions engagées cette semaine sur son avenir institutionnel ont échoué. Discussions entre indépendantistes et loyalistes sous l'égide du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Le Royaume-Uni se lance dans la géo-ingénierie. Une agence publique britannique finance des expériences grandeur nature de l'Arctique à la Grande Barrière de Corail. La géo-ingénierie est une technique très controversée qui consiste à modifier le climat de façon artificielle. Le projet soutenu par l'ARIA comme l'Agence pour la Recherche Avancée et l'Invention vise à tester les différents procédés. Explication d'Elissar Mokadim.
Envoyer des particules réfléchissantes dans la haute atmosphère pour bloquer les rayons du soleil ou encore épaissir artificiellement la banquise avec de l'eau de mer. L'objectif, face au retard que prend la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de gagner du temps pour organiser la sortie des énergies fossiles et faire baisser artificiellement les températures du globe. Ces essais seront menés à petite échelle avec des protocoles rigoureux d'évaluation avant tout déploiement, selon l'agence britannique. L'ARIA qui espère obtenir des données scientifiques solides pour démontrer que ces techniques sont sans danger, car elles soulèvent de vives inquiétudes. De nombreux scientifiques dénoncent une distraction dangereuse. Ils rappellent que l'objectif principal, c'est de diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils redoutent également des effets climatiques imprévus, comme le déplacement des pluies vitales pour l'agriculture ou la perturbation des moussons. D'autres approches, notamment l'utilisation de particules de soufre, ont déjà été écartées en raison des risques de pollution de l'air. Résultat, face à une opposition scientifique massive, plusieurs essais ont été annulés en août 2024.
C'était Lissar Mokadim. Les sports en bref avant de conclure. En football, au programme ce soir, les demi-finales retour en Ligue Europa. Avantage aux clubs anglais, Manchester United et Tottenham en position idéale pour se qualifier. Enfin en tennis, la saison sur terre battue continue avec le début du tournoi Masters 1000 de Rome. Dernier grand tournoi de préparation à Roland-Garros. Chez les dames, la polonaise Świątek, numéro 2 mondial et tenant du titre, n'a eu besoin que de 52 minutes pour battre l'italienne Cocciaretto. Le score expéditif 6-1-6-0. Voilà, et maintenant, sur le Pont des Arts, avec vous, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, et bonne soirée à vous.
Merci.
Et bientôt 17h10 à Paris.